20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Relire les antiques, Diodore de Sicile l'a écrit au tournant de notre ère. Certaines sociétés amassent des côtes de baleines que la mer jette en grand nombre. Quand ils en ont une quantité suffisante, ils les joignent ensemble en forme de toit, les couvrent de mousse. C'est sous ces cabanes que, devenus ouvriers par la seule nécessité, ils laissent passer les grandes chaleurs du jour. Voyageurs puis archéologues ont évoqué ces édifices. Ainsi, Gordon, au XVIIIe siècle, entrevoit ces structures au cœur du pays Otanto, tandis que les archéologues en ont récemment étudié sur la Skeleton Coast de Namibie. L'ingéniosité humaine ne se limite pas à ces milieux marins. Plus fort, voici des millénaires dans les grandes plaines d'Europe orientale, des groupes préhistoriques ont fait encore mieux, des cabanes en os de mammouth. Mon invité leur a consacré sa carrière, François Jinjan. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université de Paris 1, spécialiste des méthodes et théories de l'archéologie, vous êtes le fouilleur des cabanes de Gondsi et vous venez d'achever votre 27e campagne de fouilles. François Jinjan, vous avez vu ce drôle d'animal, probablement un jeune cheval qui vient d'émerger du sol gelé, le permafrost.
Ce qui était surprenant, c'était de ne trouver que des mammouths. Et toute la zoocénose est là, des rhinocéros laineux, des chevaux, des rennes, des loups, des renards polaires, des gloutons, etc.
Des bœufs musqués.
Et des bœufs musqués. Mais tous ces animaux n'ont pas les défenses. Et donc le commerce de défense faisait qu'on ne s'intéressait qu'aux mammouths.
Et ce cheval, pourquoi trouve-t-on en général des petits animaux et pas des gros ?
Je crois que c'est lié à l'utilisation de grandes pelles mécaniques sur des sites miniers à ciel ouvert. Et donc, en raclant avec la pelle, on fait sauter le jeune animal sans le détruire. Et c'est pour ça qu'on récupère beaucoup, depuis 20 ou 30 ans, de bébés mammouths, beaucoup plus que des grands mammouths adultes.
Une chose est sûre aujourd'hui, les découvertes d'ossements s'accélèrent face au changement climatique, mais aussi rien ne subsistera ensuite.
Oui, les glaciers reculent, ce qui nous permet de découvrir des individus de l'âge du bronze ou de la fin du néolithique, comme Otzi. C'est un avantage pour l'archéologie. Il est certain que le permafrost va diminuer avec le réchauffement climatique. Mais le permafrost avait déjà reculé en Ukraine. Il a disparu il y a 11 000 ans. Et les ossements de mammouth que nous découvrons sont des ossements qui sont dans des terrains qui ne sont pas congelés et donc qui posent des problèmes de conservation que nous n'avons pas dans les terrains congelés de Sibérie.
Pour voir vos fouilles, il faut se rendre à environ 180 km de Kiev.
Oui, vous prenez la grande route du sud et vous vous arrêtez au kilomètre 175 avec un grand panneau qui indique qu'il faut sortir pour aller visiter le site. Et là, vous faites 2 kilomètres en voiture, vous arrivez dans un petit village et vous découvrez un grand hangar d'aviation. L'ensemble de l'habitat et les 6 cabanes en os de mammouth sont sous le hangar que vous pouvez venir visiter. Vous êtes les bienvenus. Chaque année, nous faisons une journée porte ouverte. Cette année, nous avons eu 600 personnes en une seule journée, avec une dizaine de cars venus de tous les coins de l'Ukraine. Et tout ça est filmé sur YouTube. Et les visiteurs, les petites filles qui jouent avec les mammouths, et voilà, c'est très agréable.
Gondsi, le site fut découvert très anciennement, 1871.
C'est le premier site paléolithique découvert dans l'Empire russe. Et il a été fouillé en 1871, mais l'archéologue amateur qui était professeur de collège était tuberculeux et donc il a disparu vite. Les fouilles suivantes, c'était le directeur du musée de Poltava, Cherbakivsky, mais c'était en 1915-1916. C'est l'arrivée de l'armée allemande qui a interrompu les fouilles.
Il ne reste rien de tout ça.
Si, nous avons les archives de Cherbakivsky et une partie du matériel. Et puis en 1935, nous avons eu les fouilles de Levitsky et Broussov, qui ont duré qu'une seule année. Et Levitsky a pris 10 ans de goulag. Donc les fouilles se sont arrêtées et nous avons repris les fouilles en 1992.
Et vous avez eu plus de chance. Il y a 14 500 ans, des groupes humains s'installent. Comment sont édifiées ces cabanes ?
Les cabanes sont édifiées en récupérant les carcasses, les ossements des carcasses de mammouths qui sont dans la ravine à proximité de l'habitat. Et en fait, nous pensons que les troupeaux de mammouths sont morts naturellement de famine pendant l'hiver, pour des raisons climatiques, et que les hommes au printemps, à la fonte des neiges, font systématiquement une prospection pour les trouver. Et quand ils les trouvent, et qu'ils ont la chance que ces accumulations sont bien congelées, ils installent l'habitat à proximité sur le promontoire de la terrasse du versant de vallée. Et là, ils peuvent construire très rapidement, en quelques jours. En exploitant l'accumulation d'ossements de mammouth, ils peuvent construire les cabanes. C'est assez simple, puisque dans les cabanes en os de mammouth, nous avons que les grands ossements, les crânes, les défenses, les mandibules, les bassins, les omoplates. Et dans ce qui reste de l'accumulation et des carcasses dans les ravines, ce sont les os de pied, les vertèbres et les côtes. Et donc nous avons un complément parfait entre les os utilisés dans la construction des cabanes et les os qui restent de l'exploitation de l'accumulation d'ossements de mammouth.
François Gingean, dans cette ravine, on parle de lits d'ossements, de bone bed. Est-ce que on peut penser que les hommes préhistoriques ont dépecé ces animaux ?
Oui, puisque au milieu, nous avons des foyers, nous avons des outils en silex. Nous avons des outils en matière dure animale, notamment des pics en défense de jeunes mammouths. Nous avons des choppers en bassin de mammouth. Donc nous avons des outils en os de mammouth au milieu d'une accumulation d'ossements de mammouth. C'est parfois difficile à voir, mais nous arrivons à le voir. Et surtout, beaucoup de foyers qui montrent qu'ils ont dépecé l'ensemble de ces animaux. La seule question pour laquelle nous avons encore un doute, c'est est-ce que la viande était encore bien congelée et qu'elle était consommable ? Parce que dans ce cas, ils avaient une provision de nourriture pour 6 à 8 mois. Et ce qui expliquerait l'occupation résidentielle de l'habitat entre la fin de l'hiver et la fin de l'hiver suivant. C'est-à-dire ça dure un an. Et au bout d'un an, après, ils sont obligés de recommencer le même processus jusqu'à ce que l'ensemble des mammouths de la Grande Plaine orientale ait disparu.
On sait que la viande de mammouth est comestible. Ça a été testé en Sibérie.
Oui, les premiers découvreurs des premiers mammouths congelés ont fait goûter à leurs chiens de traîneau la viande. Et les chiens de traîneau l'ont, paraît-il, beaucoup apprécié. L'histoire ne nous dit pas s'ils l'ont goûté eux-mêmes, mais en tout cas, ils n'ont pas osé l'écrire.
En tout cas, ce troupeau de mammouths, il se compose de quoi ? De femelles, de vieux mâles ?
Comme les troupeaux d'éléphants actuels, ce sont des femelles, des vieilles femelles, les matriarches, des jeunes femelles, et puis les enfants, les adolescents, les enfants et les bébés. Les mâles sont exclus du troupeau vers l'âge de 11 ans. Donc nous pouvons avoir encore des adolescents, des jeunes mâles qui sont encore dans le troupeau, mais dès qu'ils dépassent l'âge de 11 à 12 ans, ils sont exclus du troupeau. Et donc c'est caractéristique que nous n'ayons aucun mâle adulte dans l'accumulation d'ossements de mammouth. C'est la preuve que c'était bien un troupeau dans son intégrité que nous avons là. Et d'ailleurs, la fouille de cette accumulation montre que c'est un événement unique, puisque dans la ravine, il y a un litage qui est lié à la sédimentation des fontes de neige, qui fait un espèce de millefeuille, et l'accumulation est posée sur une des feuilles du millefeuille, et elle a été recouverte très vite, ce qui explique la très belle qualité de conservation de ces ossements.
Il n'y a pas d'altération, par exemple, de l'ivoire ?
Il n'y a pas d'altération sur les os qui viennent de l'accumulation. Par contre, pour compléter les cabanes en os de mammouth, les chasseurs allaient récupérer aussi des ossements qui traînaient dans la plaine. Et donc, nous avons aussi quelques ossements de mâles adultes et quelques défenses de mâles adultes, mais qui ont une altération de surface. C'est-à-dire que ce sont des mâles qui sont morts de mort naturelle sur la plaine ou à côté de la rivière et qui sont restés en surface. Comme ce sont des très gros ossements, les mâles adultes, ils résistent mieux au fait d'être à la surface et donc ils sont récupérés. Et donc, on sait faire la différence entre les ossements de mâles adultes ramassés et ceux qui viennent de l'accumulation d'ossements de mammouths.
François Djidjian, pourquoi ne pas penser qu'une partie de ces mammouths a été chassée ?
Il y en a qui ont été chassés, mais tous les spécialistes d'éléphants nous disent qu'il est impossible, avec les moyens cynégétiques de nos chasseurs, de s'attaquer à un troupeau d'éléphants ou à un troupeau de mammouths, puisque vous vous souvenez des films hollywoodiens, vous avez l'énorme éléphant qui charge le chasseur avec sa carabine et qui l'écrase. Eh bien, ça n'est pas un énorme mâle, c'est la matriarche qui charge et qui défend son troupeau. Eh bien, une trentaine de femelles qui chargent des chasseurs semblent convaincre nos collègues archéozoologues de l'impossibilité. La seule solution que nous avons étudiée, c'était celle du piège, mais il n'y a pas de piège dans la ravine. Et l'autre solution, c'était le feu, l'incendie, c'est-à-dire créer un incendie et asphyxier un troupeau entier. Mais nous ne pouvons pas avoir la preuve de cet incendie, puisque ça ne laisse pas de traces au sol caractéristiques.
14 500 ans, nous voici devant un climat très particulier qui signe la fin des mammouths, du moins dans cette Ukraine.
Oui, c'est le climat qui fait disparaître le mammouth, parce que le climat devient humide. Le climat reste froid, vers 14 000, 15 000, mais il se charge en humidité et la neige tombe. Ce qui caractérise un climat glaciaire, c'est qu'il est froid et sec. Mais à la fin de la glaciation, il devient humide. La neige tombe et recouvre de 50 à 1 cm à 1 mètre de neige. Et pendant 6 mois de l'hiver, comme il n'y a pas d'arbres, vous n'avez plus rien à manger. Et donc, les mammouths ne peuvent plus manger leurs 50 kilos d'herbe qu'ils doivent manger tous les jours. Et donc, nous considérons que c'est la cause de la disparition progressive du mammouth qui disparaît de l'Europe occidentale, centrale et puis orientale, vers 14 000, 15 000. Et puis, nous voyons la disparition en Sibérie occidentale, Sibérie centrale, Sibérie orientale, jusque dans les zones arctiques et dans la fameuse île de Wrangel, où nous avons découvert la disparition des derniers mammouths qui étaient devenus nains il y a plus de 5000 ans.
En tout cas, si à vous écouter, ce n'est pas de froid ni de chaud que meurt le mammouth, c'est d'humidité.
Paradoxalement, c'est parce qu'il n'a plus rien à manger, c'est à cause de l'humidité.
Que chassent généralement ces groupes humains ? Le bœuf musqué, la marmotte ?
Le renne, c'est ce que nous avons en nombre d'ossements, le plus grand nombre d'individus. Nous avons un peu de bison, nous avons du cheval. Et puis, comme le climat est toujours froid, nous avons des animaux à fourrure. Nous avons le loup, le renard, le glouton.
Alors, le glouton est un animal extrêmement dangereux, le fameux gulot-gulot.
C'est un chasseur de rennes malades ou de jeunes rennes. Et donc, c'est un prédateur redoutable des troupeaux de rennes de Sibérie.
Et le lion ?
Nous avons des dents de lion. Donc, ce sont des objets de parure, mais nous n'avons pas d'ossements. Nous avons du rhinocéros, un petit peu, quelques ossements.
Et ça, on pense qu'il a été chassé réellement ?
Nous avons une dizaine de fragments d'osselons de rhinocéros. C'est assez difficile, mais il est possible que le rhinocéros ait été tué à distance du site et que les chasseurs l'ont dépecé sur place. Les grands animaux, les grands mammifères sont dépecés sur place et ramenés par morceaux. Par contre, le renne, nous avons des éléments de squelette complets, ainsi que les carnivores et ainsi que les rongeurs, par exemple les marmottes ou les lièvres. Donc là, nous avons un dépeçage du squelette complet en périphérie du site, mais les grands mammifères sont dépecés par morceaux.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
François Djidjian, comment se présentent ces aires de traitement des peaux et des fourrures, voire des zones d'exploitation du renne ?
L'habitat est assez simple à comprendre. Vous avez au centre les cabanes en os de mammouth, autour de chaque cabane des fosses. dont on a extrait le sédiment pour colmater les parois des cabanes, parce que les os de mammouth sont des ossatures. Mais il faut protéger la cabane contre le vent et le froid.
C'est l'architecture.
Voilà. Donc, on extrait des fosses le leus et on colmate les parois des cabanes.
Et on ne rajoute pas des peaux de rennes par-dessus ?
Après, c'est la reconstitution en 3D du toit de la cabane pour lequel nous avons 3 ou 4 modèles d'explication, à peu près autant que de collègues archéologues qui viennent regarder les cabanes amoureusement et avec beaucoup d'émotion. Donc, ils reconstruisent et à chaque fois, on a un modèle différent, ce qui prouve qu'on a du mal à faire la reconstitution complète de l'élévation. Mais dans les fosses, on retrouve après du stockage d'éléments d'architecture, donc des pièces détachées. Et puis aussi, ça sert de les fosses servent également de stockage d'aliments, puisque le fond de la fosse, c'est le permafrost. Et donc, vous avez un réfrigérateur naturel.
Donc, de la viande congelée.
De la viande congelée que vous laissez au fond et qui est bien conservée. Et puis ensuite, après, certaines fosses sont utilisées comme des dépotoirs. Et puis, vous avez les zones d'activité. Et nous avons les résultats de tout le travail d'artisanat sur la matière dure animale, sur le silex, etc., avec des outils qui traînent, cassés. Nous avons des foyers extérieurs. Nous avons des poteaux, c'est-à-dire des grands osselons de mammouth qui sont plantés dans le sol et qui servent certainement à des usages de poteaux à l'intérieur d'un habitat. Et puis ensuite, après, nous avons, dans les zones périphériques, nous avons les dépotoirs. Des potoirs pour la taille du silex, des potoirs pour les vidanges de foyer, les os brûlés. Et puis ensuite, nous avons les zones de dépeçage des animaux qui sont arrivés entiers sur le site. Donc la structure est d'une simplicité, d'une clarté qui est évidente. Quand nous voyons l'habitat sous le hangar, nous avons l'impression d'être arrivés une semaine après le départ de ses habitants.
Combien d'ossements faut-il pour construire une cabane ? Y a-t-il d'ailleurs une sélection ?
Il y a une architecture. Vous faites un cercle ovalaire ou semi-circulaire avec des fondations de crânes de mammouth. Les alvéoles plantées dans le sol, puisque les alvéoles, vous savez, qui tiennent les défenses, sont des espèces de poteaux, et donc ça permet de stabiliser les crânes dans le sol. Et vous faites un cercle de crânes. Et au-dessus de ça, vous montez les parois. Vous montez les parois avec des mandibules, avec des crânes, mais qui, eux, vont être dans l'autre sens, les alvéoles vers le haut, parce que dans les alvéoles, vous allez mettre des défenses, pas forcément celles du crâne, mais d'autres. Vous allez mettre des osselons et vous allez monter comme ça la paroi. Et puis, vous rajoutez des omoplates, des bassins, des osselons plantés verticalement, etc.
Donc, il existe des vrais principes, des vrais choix architecturaux ?
Ah, tout à fait. Et standard.
Et standard.
Standard. Et c'est difficile, puisque la cabane s'est effondrée et les parois sont tombées soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur de la cabane. Donc nous faisons des diagrammes de Harris avec les superpositions des os pour pouvoir reconstituer l'état exact des parois. C'est très amusant. Mais nous sommes obligés de nous arrêter à 1 mètre, 1,50 mètre des parois. Et après, à l'intérieur de la cabane, nous avons beaucoup de défenses de mammouth et des bois de rennes. Et donc la question, c'est le toit. Et là, nous avons plusieurs modèles.
J'ai lu qu'il fallait 700 grands ossements, 110 crânes, 200 défenses, c'est à peu près ça ?
Oui, ça c'est
monstrueux.
C'est les 6 cabanes. C'est les 6 cabanes, ce qui prouve que vous avez une centaine d'individus, soit venant des troupeaux de la ravine, soit venant de ramassage dans les environs.
Alors votre concept, c'est de fouiller sans détruire ces maisons ?
Oui. Nos collègues russes et ukrainiens descendaient la fouille jusqu'aux fondations des cabanes. Et ensuite, ils démontaient les cabanes.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces fondations ?
Il y avait des belles choses. Souvent, dans les crânes, on découvrait des statuettes féminines en ivoire.
Les fameuses Vénus.
Les fameuses Vénus, que nous n'avons pas à Gondsi. Parce que probablement, les Vénus y sont, mais elles sont cachées dans les os des fondations.
Et pourquoi les cacher, d'ailleurs ?
Ça, c'est une excellente question. Ils les cachaient peut-être parce qu'ils quittaient l'habitat et pour de multiples raisons, mais nous n'avons pas de démonstration possible, nous n'avons que des hypothèses.
Vous arrêtez donc
au-dessus. Mais nous nous arrêtons au niveau d'occupation, à l'extérieur, et puis nous nous arrêtons au niveau de la base de la cabane, et à l'intérieur de la cabane, nous la fouillons jusqu'au sol intérieur de la cabane, qui est marqué par un foyer intérieur.
Vous avez fouillé 6 cabanes en 27 ans. Vous pensez qu'il y en a d'autres ou vous avez l'ensemble du village ?
Tous nos collègues pensaient qu'il y avait au maximum 5 cabanes dans un habitat. Et nous en avons découvert 6, mais nous avons une petite cabane qui est la numéro 2. La numéro 1 a été découverte en 1916. La numéro 6 a été une surprise pour nous. Nous ne nous y attendions pas. Il est peu probable qu'il y en ait d'autres, mais il est possible qu'il y en ait d'autres. Nous n'avons fouillé que 80% de l'habitat.
On se chauffe à quoi ? À l'os ? À la graisse ?
À l'os, mais certainement, pour démarrer les foyers, il faut un peu d'arbres, un peu de bois végétal. L'os spongieux, et c'est pour ça que l'accumulation d'ossements de mammouth est indispensable, puisque c'est de l'os de mammouth qui est mort dans l'hiver. Il est encore plein de graisse, et donc l'os brûle. Alors que si c'était un os trouvé en plein air d'un individu mort depuis plusieurs années, il ne brûlerait pas. Donc c'est surtout de l'os, et nous avons énormément de dépotoirs qui sont des accumulations d'un mètre de hauteur de charbon d'os.
En tout cas, les mammouths sont bien sûr de toute taille, femelles, subadultes, voire enfants. Monter ces cabanes, c'est un travail collectif pour vous ?
Oui, mais rapide. J'ai fait des simulations, ça va très vite. Je pense qu'en une semaine, ils avaient construit l'ensemble des cabanes, puisque tout est à proximité. Donc le travail, c'est pendant une semaine l'exploitation, le dépeçage du troupeau de la ravine, et puis ensuite la récupération des ossements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des os en connexion anatomique dans les cabanes, ce qui prouve que ce n'est pas des os isolés qui ont été ramassés, mais bien des os qui proviennent du dépeçage d'un animal mort à proximité, comme par exemple des colonnes vertébrales complètes.
Est-ce que ces cabanes que vous fouillez sont uniques au monde, ou est-ce qu'il en existe d'autres dans d'autres sociétés, en Russie ou en Ukraine ?
Oui, en Ukraine, c'est un peuplement de 500 000 km² sur le bassin moyen supérieur du Dniepr. Sur la Desna, qui est un affluent du Dniepr, la Desna vient de Russie. Donc nous avons des sites sur la Desna côté russe, comme par exemple Yudinovo, Eliseyevich, Timonovka. Nous en avons côté ukrainien sur la Desna, comme Mézine. Nous en avons sur le Dniepr et ses affluents, comme Mejerich. Mais nous en avons aussi découvert sur le Pripyat, comme Barmaki, qui fait l'objet de nouvelles fouilles récemment. Donc c'est un territoire qui est très vaste, et donc nous n'avons qu'une quinzaine de sites. Et nous avons des sites qui sont des sites sans cabane en os de mammouth, qui sont des sites de chasse spécialisés, comme Jouravka, qui est à proche de Gontsi, mais c'est que de la chasse aux marmottes pendant l'été, ou Fastiv, près de Kiev, qui sont des chasses, un site de chasse aux chevaux, où nous n'avons que des ossements de chevaux, etc. Et sans cabane, donc c'est des sites de chasse saisonnière de courte durée.
En tout cas, vous me parliez d'un site qui visiblement est très important, Mezerich.
Oui, fouillé par Pidoplitchko, le grand archéozoologue ukrainien, qui a découvert 4 cabanes, et qui est mort d'une crise cardiaque assez jeune, et donc il n'a pas pu continuer ses travaux. Mais la quatrième cabane a été fouillée ensuite par notre collègue Gladkik de l'Université de Kiev. Mais malheureusement, la cabane qui avait été laissée en place a été vandalisée à plusieurs reprises. Et donc c'est le problème de la conservation de ces sites. Si vous voulez, soit vous les démontez complètement, soit vous créez un musée de sites. Ils ont tous été démontés, plus ou moins. À Gontsi, nous cherchons le financement et les mécènes pour le musée de site.
Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes sur des habitations fixes. On ne peut bien sûr pas les déplacer. Peut-on penser que nous ayons affaire à une population préhistorique plus ou moins sédentaire ?
L'occupation de l'habitat, d'après les vestiges archéozoologiques qui ont été étudiés sur les rennes, sur la marmotte, sur les mammouths, etc., montre une occupation de la fin de l'hiver jusqu'à l'hiver. Donc pendant l'été, le printemps, l'automne. Ça ne veut pas dire que ces habitants soient restés toute l'année dans l'habitat. Ils ont fait des déplacements pour l'approvisionnement en matières premières, le silex, mais pour aussi les coquillages, puisque nous avons des coquillages qui viennent du rivage de la mer Noire, qui à l'époque était un lac, mais qui viennent aussi des sites fossiles que nous avons de l'époque tertiaire sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Donc beaucoup de déplacements, mais un site que nous appelons semi-résidentiel.
Dans votre site d'Ukraine, avez-vous une idée de la démographie ? Allez, on va dire 30-20 personnes ?
Un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est une trentaine de personnes. Maintenant, nous devons parler du réseau de groupes humains sur 500 000 km². J'ai fait un travail de simulation. Je l'ai fait à partir, en fait, de l'estimation du nombre de troupeaux de mammouths. Et donc du nombre de sites, puisque le nombre de sites et la démographie est lié aux troupeaux de mammouths qui sont morts. Donc un pourcentage de morts de troupeaux de mammouths à cette époque-là, etc., sont des modèles assez compliqués qui donnent des ordres de grandeur de 0,01 habitants au kilomètre carré. Donc nous avons 0,01% de sites découverts par rapport sans doute aux sites existants.
On ne peut évoquer ces grands sites d'Europe orientale sans évoquer leur art, Vénus, mais aussi un art géométrique sur ivoire, voire sur ambre.
Nous avons une statuette à Dobranichevka, qui est près de Gondsi, où il y avait une fouille préventive avec plusieurs cabanes, dont une a été conservée dans une maison construite pour la conserver. Et nous avons une statuette féminine en ambre. Nous avons beaucoup d'ambres fossiles autour de Kiev, qui ne sont pas des ambres de la Baltique, mais qui sont des ambres fossiles et qui font l'objet d'ailleurs de travaux d'exploitation clandestins aujourd'hui, qui devraient être empêchés parce que ça détruit les paysages. Et nous avons beaucoup d'ambres, mais les fameuses statuettes sont en ivoire pour la plupart.
Peut-on reconstituer, François Djindjian, un véritable scénario, proposer des modèles autour de ces groupes de chasseurs ?
Oui, c'est vraiment actuellement un des domaines du paléolithique supérieur. Nous avons le plus de données pour reconstituer un modèle de peuplement. Dans la durée, dans l'espace, dans l'occupation du territoire, dans le modèle de ressources alimentaires, dans le cycle annuel, etc. etc. Donc ceci a fait l'objet de travaux et c'est possible aussi avec le Magdalénien en France et dans la région franco-cantabrique, mais le Mésinien, parce que c'est comme ça que nous appelons cette culture du bassin moyen et supérieur du Nièvre, nous pouvons le faire aussi.
François Djindjian, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Benjamin Vignal et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 partira vers d'autres temps, d'autres lieux.